France Musique.
Le philosophe et le despote éclairé. Voltaire, l'écrivain, l'historien, le philosophe est une figure de proue du siècle des Lumières. François-Marie Arouet est issu de la vieille bourgeoisie parisienne. Grâce à ses parents, il reçoit une formation de qualité chez les jésuites. Son esprit précoce le fait rapidement connaître dans le monde des lettres, notamment pour son attaque du pouvoir qui lui vaut la prison. En 1718, il prend le nom de Voltaire et fait jouer sa première tragédie, Œdipe. C'est un grand succès, mais une nouvelle querelle l'enjoint à s'exiler en Angleterre jusqu'en 1729. Voltaire y découvre les libertés parlementaires et les philosophes anglais. Inspiré de ses observations, il publie en 1734 ses lettres philosophiques, qui font scandale. Menacé d'arrestation, il se réfugie une dizaine d'années au château de Cirey, auprès de Madame du Châtelet. C'est le 8 août 1736 qu'il reçoit la première lettre de l'empereur Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand. Commence alors une correspondance d'une quarantaine d'années entre l'homme de lettres et le futur roi de Prusse. Le jeune Frédéric II vit une enfance très éprouvante sous la férule de son père Frédéric Guillaume Ier, dit le roi sergent. Celui-ci n'a d'autre passion que son armée et le goût de son fils pour la flûte, les lettres et les arts le contrarient. Les penchants homosexuels de Frédéric, son amour pour la poésie et la réflexion philosophique ne sont pas de nature à amadouer Frédéric Guillaume Ier. Lorsque le roi découvre la bibliothèque clandestine de son fils, sa dureté ne connaît pas de bornes. Le prince rebelle va tenter de s'évader avec un ami. Mais en vain. Rattrapé par son père, il est enfermé et forcé d'assister à la décapitation de son ami. Il réussit néanmoins en 1736 à élever dans son domaine de Rheinsberg un temple de la culture d'où il correspond avec son mentor Voltaire. Enfin, en 1740, à la mort de son père, Frédéric II accède au trône de Prusse. Devenu roi, Frédéric II continue la politique intérieure de son père, mais adopte un ton plus agressif et machiavélique en politique extérieure. Sa déloyauté diplomatique faillit le mener à sa perte lors de la guerre de 7 ans, mais elle assure à la Prusse son apogée militaire. Il gouverne avec une passion et un engagement qui rappellent ceux de Louis XIV. Ébloui par la France, il parle parfaitement le français et l'impose à sa cour. Épris de littérature française, il invite des hommes de lettres auprès de lui. Sensible à la peinture, il collectionne les œuvres de Watteau et construit Berlin à l'image de l'architecture française. Versailles est alors son modèle pour élever à Potsdam son propre château de plaisance. Ses souhaits étaient ceux d'un homme simple, ne pas avoir de soucis. Il fait donc bâtir entre 1745 et 1747 la résidence d'été de Sans Soucis. La vie à Sans Soucis rassemble tous les soirs à 6 heures précises les musiciens du roi, dont le fils de Jean-Sébastien Bach, Karl-Emmanuel Bach. 3 ou 4 heures durant, ces concerts quotidiens ont pour objet de délasser le souverain. Le roi flûtiste et compositeur organise ses concerts de façon très rigoureuse. Les mêmes concertos et sonates reviennent à intervalles fixes. Les musiciens de la cour composent essentiellement pour la flûte, l'instrument du roi. Certes pour flatter le goût du souverain, mais aussi parce que tous se sont mis à l'école de Quantz. Célèbre pour sa méthode d'apprentissage de la flûte traversière, il ne joue aux côtés du roi que si une œuvre comporte 2 parties de flûte. Le souverain possède également une magnifique collection de fortés et pianos. Il ne peut dès lors résister à la montrer au fameux cantor de Leipzig, Jean-Sébastien Bach. Aussi insiste-t-il auprès de son fils pour recevoir le célèbre musicien que toute l'Allemagne admire. La rencontre a finalement lieu les 7 et 8 mai 1747. Le vieux Bach, alors âgé de 62 ans, répond enfin à l'invitation de son fils cadet, Carl-Philippe Emmanuel, claveciniste à la cour du roi. Ne pouvant contenir son impatience et sa joie, Frédéric II s'extasie devant les géniales improvisations du maître qu'aucun thème royal ne peut défier. Après son retour à Leipzig, Bach compose la fameuse offrande musicale, où il cache des énigmes, non dépourvues d'humour, et même sa signature. Frédéric II, le despote éclairé, le roi philosophe, garde toute sa vie son admiration pour la culture française. Dans cette langue, il écrit et lit nombre d'ouvrages. Dévoré par la curiosité de converser avec le prince des Lumières, il prend enfin sa plume. D'emblée, le ton est flatteur. Naît alors une correspondance où tous deux retrouvent en l'autre un esprit également curieux, ouvert et correspondant à leurs espoirs. Voltaire doit être l'ami, le guide, le mentor. Frédéric doit être le prince éclairé, sensible aux idéaux des Lumières, le roi philosophe. Durant 4 années, de 1736 à 1740, Voltaire et Frédéric ont rêvé et se sont rêvés. L'aboutissement de cette première phase de relation est l'apparition de l'anti-Machiavel, réfutation par Frédéric du prince de Machiavel. Chapitre par chapitre, le roi philosophe entreprend de réfuter les allégations de Machiavel et les oppose à la vertu et aux véritables intérêts des princes. Si l'ouvrage, largement corrigé par Voltaire, marque l'apothéose de la relation épistolaire entre les deux hommes, il sonne aussi le glas de la période d'idéalisation de cette relation. Le couronnement du roi en 1740, suivi de son invasion perfide de la Silésie et de 2 brèves rencontres entre les deux hommes, brise l'image du prince idéal que Voltaire a de lui. Les compliments continuent toutefois à pleuvoir de part et d'autre, de même que ne cessent pas les échanges de livres et les discussions philosophiques. Mais leur relation n'est plus sereine. Elle comporte une nouvelle dimension de conflit, de tension, de piège. Le roi de Prusse tire de son côté les ficelles de la politique pour faire venir à Berlin son écrivain préféré. Il détruit pour cela la réputation de Voltaire à Versailles. Malgré honneur et pension, la courte vie du poète courtisan au château de Versailles laisse à Voltaire un goût amer. Son roman Zadig met en scène cette vie à la cour et paraît anonymement en 1848. Devenu indésirable à la cour de Versailles, désemparé après la mort de Madame du Châtelet et par un public parisien qui, las de ses succès, siffle ses pièces, il accepte l'offre de Frédéric II de se fixer à Berlin. Un cénacle de penseurs, parmi lesquels la Maîtrie ou Maupertuis, se rassemblent à Potsdam. Au souper de l'empereur, on dresse le plan d'un dictionnaire philosophique, mais le projet n'aboutit pas. Le séjour dure de 1750 à 1753. Le soir, avant le souper des philosophes, quelques musiciens, dont Franz Benda au violon et Carl-Philippe Emmanuel Bach au clavecin, accompagnent le roi Frédéric II de Prusse, qui interprète son concerto numéro 3 pour flûte et orchestre. Bien vite, les relations entre les deux hommes se détériorent. Ils en viennent à se critiquer par pamphlets interposés. Voltaire publie son premier conte philosophique Micromégas en 1752, mais s'aperçoit qu'il est l'amuseur et non le conseiller de Sa Majesté. Le propos « on presse l'orange et on jette l'écorce » lui est alors rapporté. Et tout se gâte à la fin de 1752. Bientôt, Voltaire fuit Berlin et emporte avec lui un livre de poésie du monarque. Alors l'empereur se venge et le laisse emprisonner 1 mois à Francfort. Voltaire vit très mal cette humiliation. Ainsi se terminent provisoirement les relations du Salomon du Nord et du Virgile français. Mais elles avaient été trop intimes dans les choses du corps et dans celles de l'esprit. L'orange avait bel et bien été pressée, l'écorce en demeurait utilisable. Frédéric regrette ses procédés avec Voltaire. Voltaire regrette d'avoir quitté la cour de Prusse. C'est alors que la guerre de 7 ans éclate et la situation du roi de Prusse est inquiétante. Voltaire sent renaître en lui son intérêt pour son ancien disciple. Lorsqu'il découvre en 1757 son épître, dite d'Erfurt, où le souverain écrit « Penser, vivre et mourir en roi », alors Voltaire prend sa plume. Il le supplie de considérer le tort irrémédiable que ce geste ferait à la philosophie. Il était beau de voir le plus illustre écrivain français, même chassé de sa patrie, tendre une main secourable au plus illustre souverain de l'Europe ennemie de la France pour l'engager à vivre. Frédéric s'y résolut, Voltaire pardonna. Leur communion spirituelle était à la hauteur des Lumières.
À réécouter sur francemusique.fr.